Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la fin, un veuf, flappy et usé, Ivanov, ou un homme, bon, incompris, malheureux. Toute femme serait censée préférer un homme malheureux à un homme heureux. Au début, un mariage, marié par passion. Mais 5 ans ont passé, et voilà. Nous sommes chez Tchekhov, dans une pièce d'Anton Tchekhov. Au héros, Ivanov, un de ses amis lance « Il est temps de remiser votre mélancolie, vous n'êtes plus lycéen. » Simplement, il y a les dettes, les milliers de roubles attendus. Je n'ai plus un copec. Quel pourrait être le bon moyen de gagner de l'argent? Et puis, il y a l'ennui. La version de la pièce que nous allons suivre a été diffusée dans le cadre de la série Théâtre populaire juin 44, le 2 juin 1966, sur France Culture.
Le théâtre populaire de juin 44 présente Ivanov d'Anton Tchekhov, avec Michel Vitold, Michel Galabru, Harry Max, Jean Negroni, Marcel Alba, Valévaldi, Pierre Ferval, Jean Daguerre, Raymond Jourdan, Robert Verani et Fanny Robiane, Catherine de Seine, Fanny Marette, Olga Nilza, Jeanne Val, André Gire, Katia Vaninka. Maurice Bertrand vous parle.
Il fallut un demi-siècle avant qu'Anton Tchekhov s'imposât comme un des maîtres de l'art dramatique contemporain. Devançant l'esprit de son époque, son pessimisme indulgent mais amer semblait étrange, voire néfaste. Alors, la gloire ne nous sourit qu'aux approches de la mort. En France, on connaît son œuvre grâce à l'admirable effort de Georges Lumia Pitoyev, qui révélèrent la mouette, oncle Vania et la cerisée, dernier terme de cette puissance dramatique. Ivanov, que juin 44 vous présente cet après-midi, est la première grande pièce de Tchekhov, et son intérêt réside dans ce fait qu'elle contient déjà les thèmes psychologiques et moraux qu'il développera plus tard dans ses autres ouvrages. L'action vaut moins que la peinture réaliste mais pitoyable des personnages composant cette médiocrité humaine. En son temps, le drame ne fut guère apprécié. Son réalisme dissimulait sa véritable atmosphère de douce nostalgie, de rêve caché. Et le jeune dramaturge crut que son manque de métier justifiait cet échec. Cependant, il tenait beaucoup à l'idée générale d'Ivanov, et il s'en inspirera quelques années plus tard dans « Oncle Vania », donnant alors libre cours, comme dit André Barsac, à sa foi communicative en la destinée humaine, à sa pitié pour tous ceux qui souffrent. Et puis, il nous a laissé également une fresque du paysan et des mœurs rurales de la Russie avant la Révolution. Tout ce que la terre natale lui a inspiré, tout ce qu'il a ressenti dans son enfance et sa jeunesse, car il meurt à 44 ans, tout cela est enclos dans ce théâtre. Il a gravé des caractères et des sentiments simples, pris dans la réalité, mais une réalité qu'il teinte de son émotion personnelle. L'attrait de ces comédies étranges, c'est qu'il n'y s'y passe presque rien, mais où un visage, un silence crée une vie frémissante, des contacts d'âme. Avec un mot, une ligne, Tchekhov éveille en nous des résonances infinies. Et c'est à son altruisme, à sa tendresse profonde, mais lucide, autant qu'à son génie du théâtre, qu'il doit sa réputation universelle.
le jardin de la propriété d'Ivanov. Celui-ci est assis à une table et lit. Entre Borkine, un peu ivre, un fusil à la main. Il s'approche d'Ivanov à pas de loup et braque son fusil sur lui.
Mais chat, voyons, mais à quoi pensez-vous? Vous m'avez fait peur, je suis déjà énervé ou fait des plaisanteries stupides. Et voilà, ça, il m'a fait peur et ça l'amuse.
Allons, j'ai tort, je ne le ferai plus. Croyez-moi, mon cher, j'ai fait 17 vers en 3 heures, je suis éreinté. Touchez, je vous prie, comme mon cœur bat.
Bon, alors après...
Non, touchez. Vous entendez? Touf, hein? Ça, c'est signe que j'ai une maladie de cœur. Je peux mourir d'un moment à l'autre. Dites, ça vous fera-t-il de la peine si je meurs?
Laissez-moi lire, ensuite...
Non, sérieusement!
Ça me fait de la peine que vous sentiez l'eau de vie, Micha. C'est dégoûtant.
Ah, ça se sent. Oh, c'est étonnant, ça. Au fait, non, il n'y a rien à cela d'étonnant. J'ai rencontré au Pliniski le juge d'instruction et nous nous sommes enfilés, il faut l'avouer, chacun 8 petits verres de vodka. Ah oui, à franchement parler, c'est très mauvais de boire. Dites, c'est très mauvais, hein, c'est mauvais.
Mais c'est insupportable, hein. Enfin, Micha, comprenez-vous que vous moquez de moi?
Oui, allons, j'ai tort. Allez, restez assis en paix. Des gens étonnants, on ne peut seulement pas leur parler. Ah oui, j'allais oublier. Donnez-moi 82 roubles.
Quels 82 roubles?
Pour payer les ouvriers demain.
Mais je ne les ai pas.
Mille grâces, je ne les ai pas. Mais il faut payer les ouvriers. Le faut-il?
Je ne sais pas, je vous dis que je n'ai rien aujourd'hui. Attendez le premier du mois quand je toucherai mes appointements.
Voilà, allez causer à des êtres pareils. Ce n'est pas le premier du mois que les ouvriers viendront pour la paye, c'est demain matin.
Alors que dois-je faire?
Ah, ces propriétaires, ces agrariens, que le diable les emporte. Une exploitation modèle, 3000 arpents de terre et pas un sou en poche. C'est comme avoir une cave et pas de tire-bouchon. Eh bien, demain, monsieur, je vais vendre votre troïka. Ma parole, j'ai déjà vendu l'avoine sur pied. Demain, si je m'y mets, je vends le blé en herbe. Ah, ben vous croyez que je me gênerai? Vous le croyez? Eh bien non, vous tombez mal.
Qui parle ici? C'est vous, Micha? Pourquoi marchez-vous ainsi?
Avec votre Nicolas. Comment voulez-vous que l'on marche autrement?
Ça ne te vaut rien, Newt, de rester à la fenêtre. Rentre, je te prie. Mon oncle, fermez la fenêtre.
N'oubliez pas aussi que dans 2 jours, il faut payer les intérêts aux Lebedev.
Oui, je le sais. J'irai aujourd'hui chez les Lebedev, les prier d'attendre.
Quand y allez-vous?
Tout de suite.
Attendez. Ah, c'est aujourd'hui, me semble, l'anniversaire de Sachenka. Oh, j'allais oublier. Oh, en voilà une mémoire. Je vais aller me baigner. J'avalerai 3 gouttes d'ammoniac et prêt à recommencer. Nikolai Alexeyevitch, mon chéri ange de mon cœur, vous vous énervez toujours, vous pleurnichez, vous êtes continuellement dans les sombres soucis, tandis que nous pourrions ensemble faire de si belles affaires. Pour vous, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Voulez-vous que j'épouse Marfouchka Babakine? La moitié de la dot sera pour vous. Que dis-je, la moitié? Je vous donnerai tout.
Assez d'ineptie.
Non, sérieusement, voulez-vous que j'épouse Marfouchka? Nous partagerons la dot. D'ailleurs, pourquoi vous dire tout cela? Pouvez-vous comprendre? Assez d'ineptie. Vous êtes bon, intelligent, mais... voyez-vous, vous n'avez pas le nerf. Vous entendez, vous n'avez pas d'élan. Se lancer dans la vie tête baissée, que les diables en soient suffoqués, vous êtes pleurnicheur, névropathe, et si vous étiez un homme comme tout le monde, dans un an, vous auriez 1 million. Par exemple, si j'avais à l'instant 2300 roubles, eh bien j'en aurais 20 000 dans 2 semaines. Ah, vous le croyez pas? Ah, cela aussi, à votre avis, c'est une ineptie. Non, ce n'en est pas une. Tenez, donnez-moi ces 2300 roubles et dans 8 jours, je vous en remets 20 000. Monsieur Ovsianov vend sur l'autre rive, 2 300 roubles, une parcelle de terre juste en face de la nôtre. Si nous lui achetons cette parcelle, les deux rives seront à nous, et écoutez-moi bien, nous aurons le droit de barrer la rivière. Nous dirons que nous allons bâtir un moulin, et à peine aurons-nous annoncé que nous allons faire un barrage, que tous les gens d'Aval se mettront à brailler, nous leur dirons, allez, commenzir, si vous voulez que nous ne fassions pas de digue, payez, vous comprenez? La fabrique Zareski nous donnera 5 000 roubles. Korolkov nous en donnera 3 000, le monastère 5 000, et ainsi de suite.
Ce sont là, Micha, des billevesées. Si vous ne voulez pas me désobliger, gardez-les pour vous.
Naturellement, je le savais. Vous ne faites rien et vous m'entravez.
Les médecins, c'est pareil aux avocats, avec la seule différence que les avocats ne font que vous écorcher et que les médecins vous écorchent et vous tuent. Je ne parle pas des personnes présentes. Des charlatans, des exploiteurs.
Eh bien, docteur, que dites-vous?
La même chose que ce matin. Il faut qu'elle parte immédiatement pour la Crimée.
Pour la Crimée, ouais. Par ennui, une madame Angot ou une Félix se met à tousser, sent du grattement dans la gorge. On lui ordonne un voyage en Crimée. Et là, en Crimée, un beau tartare...
Pour aller en Crimée, il faut de l'argent.
Oui.
Oui, bien sûr, peut-être en trouverai-je, mais... Elle se refuse absolument à ce voyage.
Oui, c'est vrai qu'elle s'y refuse.
Dites, docteur, Anna Petrovna est-elle malade au point qu'elle doit absolument aller en Crimée?
Oui, la phtisie...
Ouh, ça c'est mauvais, hein. Et elle entend déjà que je remarque à sa figure qu'elle n'ira pas loin.
Parlez plus bas, on peut vous entendre dans la maison.
Et ce que c'est que la vie, hein. La vie humaine est comme une fleur épanouie dans les champs. Survient un bouc qui la happe et hop, il n'y a plus de fleurs.
Bêtise. Bêtise. Ouh, et filouterie.
Moi, messieurs, je passe mon temps à indiquer à Nikolaï Alexeïevitch des moyens de gagner de l'argent. Je lui suggère une magnifique idée. Mais ma poudre, comme à l'ordinaire, tombe sur la terre mouillée. On ne lui fera pas entrer ça dans la tête. Voyez de quoi il a l'air. Mélancolie, spleen, angoisse, mauvaise humeur, ennui...
Pour chacun, t'es génial, tu trouves ce qui convient et à chacun, tu enseignes à vivre. Tu devrais pour moi aussi trouver quelque chose. T'es intelligente, indique-moi une issue, hein?
Allez. Adieu, messieurs, adieu, je vais me baigner.
Alors?
Allez. Vous avez 20 façons de vous tirer d'affaire. Et à votre place, j'aurai 20 000 roubles dans une semaine.
Et de quelle manière? Dis-le-moi, allons.
Ah, gens inutiles, mots inutiles. Nécessité de répondre à des questions stupides, tout ça, docteur, m'a lassé jusqu'en être malade. Je suis devenu irascible, emporté, cassant, mesquin... Au point que je ne me reconnais plus. J'ai mal à la tête toute la journée, je ne dors pas, les oreilles me tintent, et je ne sais positivement pas que faire de moi. Positivement pas.
Nikolaï Alexeïevitch, j'ai à vous parler sérieusement.
Parler?
C'est à propos d'Anna Petrovna. Elle ne consent pas à aller en Crimée. Mais avec vous, peut-être irait-elle.
Oui, mais pour y aller à deux, il faut de l'argent. Et puis, on ne me donnera pas un long congé, j'en ai déjà pris un cette année.
Oui, admettons. Enfin, je continue. Le vrai remède dans la phtisie, c'est le repos absolu, et votre femme ne connaît pas une minute de repos. Vos relations avec elle l'agitent continuellement. Excusez-moi, je suis ému. Je vais vous parler net, votre conduite la tue. Nikolaï Alexeïevitch, faites que je puisse avoir une meilleure opinion de vous.
Oui, tout cela est vrai. Je suis sans doute affreusement coupable, mais Mes idées se sont embrouillées. Je ne sais quelle paresse enchaîne mon âme. Je ne suis pas en état de comprendre. Je ne comprends ni les gens, ni moi. Je vous raconterai tout ça depuis le commencement, cher ami, mais l'histoire est si longue, si compliquée, que ça durerait jusqu'à demain. Oui, Anyuta est une femme remarquable, extraordinaire. Elle a pour moi changé de religion, quitté ses parents. Elle a renoncé à la richesse et si je lui demandais 100 autres sacrifices, elle les ferait sans broncher. Et moi, je ne suis remarquable en rien. Je n'ai rien sacrifié. Oh, c'est une longue histoire. Tout ceci me ramène, docteur, à dire que... Enfin, en un mot, je me suis marié par passion, en lui jurant de l'aimer toujours. Mais 5 ans passés, elle m'aime encore. Et moi, voilà. On me dit qu'elle mourra bientôt et je ne ressens à cette nouvelle ni amour ni pitié. Rien que le vide, l'accablement. À me regarder du dehors, c'est sans doute horrible, non? Quant à moi, je ne sais pas ce qui se passe en mon âme. Vous n'avez, mon cher, terminé votre médecine que l'an dernier. Vous êtes encore jeune, vigoureux. Et j'ai 35 ans. J'ai le droit de vous donner des conseils. N'épousez ni juive, ni névropathe, ni bas bleu. Mais choisissez un être ordinaire, gris, sans couleur voyante, sans babillage superflu. Bref, organisez votre vie de la façon la plus convenue. Plus le fond sera gris et terne, mieux ça vaudra. Mon cher, ne faites pas tout seul la guerre à la multitude. Ne vous battez pas avec les moulins. N'essayez pas de briser les murailles avec votre front.
Nikolaï Alexeïevitch, je vous ai écouté. Pardonnez-moi, je vais vous parler sans embâge. Il y a dans votre voix, dans vos intonations, sans parler de vos paroles, tant d'insensibilité, de froideur d'âme. Un être qui vous est proche meurt parce qu'il vous aime. Ses jours sont comptés. Et vous, vous pouvez ne pas l'aimer, aller et venir, donner des conseils, prendre des airs. Alors, je ne sais pas m'exprimer, je n'ai pas le don de la parole. Mais vous m'êtes profondément antipathique.
Oui. Oui. Peut-être. Du dehors, on voit plus clair. Il se peut que vous me compreniez. Je suis probablement très, très coupable. Tiens, je crois que la voiture est attelée. Je vais m'habiller. Vous ne m'aimez pas, docteur. Ne me le cachez pas. Cela fait honneur à votre cœur.
Quel maudit caractère. J'ai encore laissé passer l'occasion de lui parler comme il fallait. Je ne peux lui parler de sang-froid. À peine ai-je ouvert la bouche, ai-je prononcé un seul mot que tout de suite, là, ça commence à m'étouffer, ça se retourne et ma langue se colle à mon palais. Je déteste ce tartuffe, ce gredin aux beaux sentiments. Je le déteste de toute mon âme. Voilà qui part. Pour sa malheureuse femme, tout le bonheur consiste à l'avoir auprès d'elle. Elle respire par lui, elle le supplie de passer avec elle au moins une soirée. Et lui, il ne le peut pas. Chez lui, voyez-vous, il étouffe, il est à l'étroit. S'il passait seulement une soirée avec elle, il se logerait une balle dans la cervelle. Le pauvre. Il a besoin d'espace pour ourdir quelques nouvelles bassesses. Ah, je sais pourquoi tu vas tous les jours chez les Lebedev. Je le sais.
À la longue, Nikolaï, c'est barbare. Toi, tu t'en vas chaque soir et nous restons seuls. Par ennui, nous nous couchons à 8 heures. C'est une ignominie et pas une vie. Pourquoi peux-tu sortir et nous pas? Pourquoi?
Comte, laisse-le partir, qu'il s'en aille.
Mais Anya, où irais-tu puisque tu es malade? Tu es malade, tu ne dois pas sortir après le coucher du soleil. Demande au docteur. Enfin, tu n'es plus une enfant, Anyuta, il faut réfléchir. Et toi, tu as besoin d'aller où je vais?
Moi, je suis prêt à aller jusque dans le feu de l'enfer, entre les dents d'un crocodile, à condition de ne pas rester ici, je m'ennuie. Je suis hébété d'ennui et j'embête tout le monde. Tu me laisses ici pour qu'elle ne s'ennuie pas, mais moi je l'accable, je la ronge.
Laissez-le, comte. Oh. Qu'il aille là-bas s'il s'y plaît.
Agnia, pourquoi ce ton? Tu sais que ce n'est pas par amusement que j'y vais. J'ai à parler de l'échéance de mes billets.
Je ne comprends pas pourquoi tu te justifies. Vas-y, qui te retient?
Non, 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 je vous en prie, ne nous dévorons pas les uns les autres.
Nicolas, mon cher ami, je t'en prie, prends-moi avec toi. Je verrai des filous et des imbéciles, ça me distraira peut-être un peu. Depuis Pâques, je ne suis allé nulle part.
Bon, alors viens, viens.
Hein? C'est vrai?
Oh, comme vous m'ennuyez tous.
Non, mais tu m'emmènes? Ah, merci, merci. Dis-moi, tu permets que je mette ton chapeau de paille?
Oui, oui, mets-le, mets-le.
Ah, et fais merci, vite. Merci.
Je t'en prie, fais vite. Comme vous m'ennuyez tous. Mais qu'est-ce que je dis? Agne, je te parle sur un ton incroyable. Jamais, jamais avant ça ne m'était arrivé. Bon, allons, adieu. Adieu, Agne. Je rentrerai vers 1 heure.
Colia, mon chéri, reste.
Ma chérie, je t'en supplie, ne m'empêche pas de sortir tous les soirs. C'est cruel, injuste de ma part, mais permets-moi de commettre cette injustice.
Colia, si tu restais, nous causerions comme par le passé, nous souperons ensemble, nous lirons. Le grognon et moi, nous avons appris beaucoup de duos pour te les jouer. Reste. Je ne te comprends pas. Voilà déjà toute une année que ça dure. Pourquoi es-tu changé?
Je ne sais pas, je ne sais.
Et pourquoi ne veux-tu pas que je sorte avec toi le soir?
Bon, là, si tu veux, je vais te le dire. C'est un peu cruel, mais il vaut mieux le dire. Quand je suis angoissé comme ça, je commence à ne pas t'aimer. Alors je te fuis. Voilà, il faut que je m'en aille de la maison.
L'angoisse. Je comprends, je comprends. Écoute, Colia, essaye, comme avant, de chanter, de rire, de te fâcher. Reste. Nous rirons ensemble, nous boirons des liqueurs et ton angoisse passera en 1 minute. Veux-tu que je chanterai? Ou bien allons dans ton cabinet dans l'obscurité comme avant et tu me raconteras ton angoisse. Tu as des yeux si pleins de douleur. Je les regarderai et je pleurerai. Et cela nous soulagera tous les deux. Ou peut-être non, Colia. Les fleurs reviennent chaque printemps, mais les joies reviennent-elles? Dis, allons, pars, pars.
Prie pour moi, Agne. Non, non, je ne peux pas.
Pars!
Anna Petrovna, prenez pour règle que dès que sonne 6 heures, vous devez rentrer et ne plus sortir jusqu'au matin. L'humidité du soir vous est nuisible.
Bien, docteur.
Il n'y a pas à dire bien, docteur. Je parle sérieusement.
Et si je ne veux pas être sérieuse?
Ah, vous voyez, vous toussez déjà.
Ah, où est Nicolas? Les chevaux sont-ils prêts? Ah, bonne nuit, ma charmante. Allez, choix, j'ai foutu mon bâton. Allez, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.
Vieux pitre.
Quel ennui. Voilà les cochers et les cuisinières qui se donnent un bal. Et moi, je suis comme une abandonnée. Evgeny Konstantinovitch, que faites-vous là-bas? Venez, venez ici, asseyez-vous.
Je ne peux pas rester assis.
Docteur, vous avez votre père et votre mère.
Mon père est mort, mais j'ai encore ma mère.
Vous vous ennuyez sans elle?
Je n'ai pas le temps de m'ennuyer.
La chouette ulule encore.
Laissez-la faire.
Je commence à croire, docteur, que le sort m'a frustrée. Des tas de gens qui ne sont peut-être pas meilleurs que moi sont heureux et ne paient pas pour leur bonheur. Moi, j'ai payé pour tout. Absolument pour tout. Mais combien cher? Pourquoi me prendre de si gros intérêts? Chers amis, vous êtes tous très circonspects avec moi, très délicats. Vous craignez de me dire la vérité, mais croyez-vous que je ne sache pas quelle est ma maladie? Je le sais parfaitement. Mais il est ennuyeux de parler de cela. Connaissez-vous des anecdotes amusantes?
Non, je n'en connais pas.
Kolia en sait. Je commence moi aussi à m'étonner de l'injustice des gens. Pourquoi ne répond-on pas à l'amour par l'amour? Et pourquoi paie-t-on de mensonges la vérité? Dites-moi jusqu'à quand mon père et ma mère me détesteront. Et comment faut-il comprendre la tristesse de Nicolas? Il dit qu'il n'y a que le soir qu'il ne m'aime pas, quand l'angoisse l'accable. Ça, je le comprends, je l'admets. Mais s'il avait complètement cessé de m'aimer? Non, assurément, c'est impossible. Et si pourtant... Non. Non, non, il ne faut pas penser à cela. Oh, quelles terribles idées me viennent. Vous n'êtes pas marié, docteur, il y a bien des choses que vous ne pouvez pas comprendre.
Vous croyez? Moi, voyez-vous, vous m'étonnez. Expliquez-moi comment vous, une femme intelligente, honnête, presque une sainte, avez permis à un homme de vous leurrer si impudemment et de vous entraîner dans ce nid de hibou.
Voilà. C'était exactement ce qu'il disait jadis, lui aussi. Exactement. Et lui, il a les yeux plus grands. Et quand il commençait à parler avec feu de quelque chose, ses yeux étaient comme des braises. Parlez, parlez.
Oh, que j'ai parlé. Rentrez. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous?
Je ne peux pas y tenir, docteur. Il faut que j'y aille.
Mais où donc?
Où il est? J'y vais. Dites qu'on attelle.
Non, je me refuse absolument à la soigner dans des conditions pareilles. Il ne suffit pas de ne pas toucher un copec, on vous retourne l'âme. Non, je m'y refuse. C'en est assez.
Le salon des Lébédiev.
Oh, charmante Marfa Yegorovna. Bonjour, Zinaïda Savichna. Oh, je suis heureuse de vous féliciter pour l'anniversaire de Sashinka. Dieu vole.
Merci, ma petite âme. Je suis si heureuse. Et comment allez-vous?
Oh, grand merci. Oh, la jeunesse. Bonjour.
Oh, la jeunesse. Et vous, êtes-vous donc vieille?
Oh. Oui, je me fourvoyais avec la jeunesse.
Oh, pardon, mais que dites-vous là? Ce n'est qu'une idée que vous êtes veuve. Vous pourriez rendre des points à n'importe quelle jeune fille. Oh.
Gavrila, comment donc sers-tu le thé? Tu aurais dû apporter quelques confitures. De la groseille à Macron.
Oh, ne vous dérangez pas. Je vous remercie beaucoup. Non.
Marfa Yegorovna, vous êtes venue par Mouchkino?
Oh non, par Samitchev. La route est meilleure.
Ah, bien, madame.
Que pique?
Je passe.
Je passe.
Je passe.
Les valeurs à l'eau, chère amie Zinaïda Savichna, ont encore beaucoup monté. A-t-on vu cela? Le premier emprunt est à 270 et le second un peu moins de 250. Mais jamais cela n'était arrivé.
Vous êtes excellent pour qui en a beaucoup.
Oh, ne dites pas ça, ma bonne amie. Bien que les rentes soient chères, il n'est pas avantageux d'y placer tout son argent. Mais la seule assurance contre le risque de remboursement au père vous empoisonne la vie.
C'est vrai, ma chère. Mais on a du moins l'espérance de gagner. Oh. Dieu est bon.
Pour moi, mesdames, je trouve qu'en ce temps-ci, il n'est pas avantageux d'avoir des capitaux. Les valeurs donnent très peu de revenus et mettre son argent dans les entreprises est extrêmement dangereux. Je trouve que ceux qui ont présentement des capitaux sont dans une situation plus critique que ceux
c'est
qui...
C'est vrai qui... Oh, est-il permis de bâiller devant des dames?
Oh, pardon, mesdames, je me suis oublié. Pardon.
Deux carreaux.
Je passe.
Je passe.
Dieu, quel ennui. C'est à en mourir.
Ceux du paradis, cette friandise divine, cet exquilocum. Comment va votre très précieuse santé?
Un grand merci.
Allons très bien, Dieu soit loué. Ah, oui, oui. Gavrila.
Dites-moi pourquoi nous n'avons pas fait le point. Pourquoi avons-nous perdu que le diable m'emporte tout à fait?
C'est parce que, petit père, on ne se mêle pas de jouer quand on ne sait pas. Quelle raison as-tu d'attaquer dans une couleur que tu n'as pas? Et ton as sec a sauté.
Non, permettez, messieurs. Oh. Écoutez, j'avais 8 carreaux. Avec l'as, le roi et la dame. L'as de pique, et entendez-moi bien, un seul petit cœur. Et elle, que le diable l'emporte, n'a pas pu annoncer le petit chelem. Mais j'avais dit sans atout.
C'est moi qui l'ai dit. Toi, dis de lever sans atout.
Que je sois un pied plat et un damné, si je rejoue jamais avec ce vieil esturgeon.
Oh, j'en ai chaud. Vieil esturgeon, c'est toi qui en es un.
Vous aussi, chère bonne maman, vous vous fâchez.
Oh, ma petite étoile, ma toute belle, elle est ici. Et moi, poule aveugle qui ne la voyait pas, ma poulette. En voilà une joie. Laisse-moi te regarder, mon cygne blanc. Chut, chut, chut. Que le mauvais œil se détourne.
La voilà lancée. Tu ferais mieux de lui trouver un mari.
Oh, je lui en trouverai un. Je ne descendrai pas au tombeau avant de l'avoir mariée. Et notre petite Sacha aussi. Je les marierai. Ah, mais où les prendre aujourd'hui, les maris? Regardez-les, nos épouseux. Ils restent assis, mornes comme des coques mouillées.
Comparaison peu heureuse. À mon sens, mesdames, si les jeunes gens d'aujourd'hui préfèrent la vie de garçon, c'est que les conditions sociales, on peut le dire.
Oh, pas de philosophie, je n'aime pas ça. Hein?
Oh, par un temps si chaud, restez enfermés ici.
Sachenka, tu ne vois pas que Marcha Yegorovna est ici?
Oh, pardon. Oh, vous êtes devenue fière, Sachenka. Vous auriez dû venir me voir au moins une petite fois. Oh, bonne fête, ma chérie.
Je vous remercie, madame.
Eh oui, Avdotia Nazarovna, la question des fiancés est difficile aujourd'hui. Et pas seulement celle des fiancés. On ne trouve même nulle part des garçons d'honneur convenables. La jeunesse d'à présent, soit dit sans offense, Dieu lui pardonne, est aigrie et recuite. Elle n'est bonne ni pour danser, ni pour causer, ni pour boire.
Oh, pour ce qui est de boire, ils sont tous passés maîtres. Il n'y a qu'à leur offrir.
Oh, ce n'est pas chose difficile que de boire. Le cheval aussi le sait. Il s'agit de boire avec esprit. De mon temps, on trimait toute la journée au cours, mais le soir venu, on courait les maisons où l'on recevait. Et on tournait comme une toupie jusqu'à l'aube. On dansait, on amusait les demoiselles. Au lieu que la jeunesse d'aujourd'hui... Je ne la comprends pas. Dans tout le district, il n'y a qu'un seul garçon bien, et il est marié. Et il me semble qu'il commence lui aussi à faire le diable à quatre.
Qui est-ce donc?
Nikolatcha Ivanov.
Ah oui, c'est un homme bien, mais malheureux.
Comment serait-il heureux, ma chérie? Comme il s'est trompé, le pauvre. Il a épousé sa petite juive et il comptait, le malheureux, que les parents lui donneraient des montagnes d'or. Mais il en est retourné tout autrement.
Maman, c'est faux.
Comment est-ce faux, ma petite choura? Mais chacun le sait. Si ce n'avait été par intérêt, aurait-il épousé une juive? Les Russes manquent-elles?
Parfois, il l'enferme à la cave et lui dit « Mange de l'ail, espèce de ci, espèce de ça !» Et elle en mange, jusqu'à commencer à en avoir la nausée.
Papa, mais c'est du mensonge.
Laisse-les faire, qu'il bavarde à cœur joie. Gavrila.
C'est de cette façon-là qu'il s'est ruiné, le pauvre. Ses affaires, ma petite, sont en tout à fait mauvais point. Si Borki ne surveillait pas le domaine, Ivanov avec sa juive n'aurait pas de quoi manger. Et nous, mon petit cœur, ce que nous avons perdu grâce à lui, Dieu seul le sait. Croyez-vous, ma chère, qu'il nous doit 9000 roubles depuis déjà 3 ans?
9000 roubles?
Oui, c'est mon cher époux qui a jugé bon de les lui faire prêter. Il ne discerne pas à qui l'on peut prêter et à qui on ne le peut pas. Je ne parle déjà plus du capital, j'en fais mon deuil. Mais que du moins, il paye régulièrement les intérêts.
Maman, vous avez déjà raconté ça au moins 1000 fois.
Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi le défends-tu?
Mais comment avez-vous le courage de parler ainsi d'un homme qui ne vous a fait aucun mal? Mais que vous a-t-il donc fait? Ah, que c'est ennuyeux, ennuyeux. Ivanov, toujours Ivanov, rien qu'Ivanov. Et jamais d'autres sujets de conversation. Positivement, messieurs, j'admire votre patience. Cela ne vous ennuie-t-il donc pas de rester aussi longtemps assis? Mais dites donc quelque chose, amusez les demoiselles, remuez-vous, réunissez vos forces et inventez quelque chose de spirituel, de brillant. Dites même une impertinence, une vulgarité, mais que ce soit neuf, drôle.
Oh, qui est-ce qui déclame ici?
C'est vous, Sashenka. Ah, toutes mes félicitations, mon ange. Dieu vous accorde de mourir le plus tard possible et de ne pas naître une seconde fois.
Oh, Nikolaï Alexeïevitch,
comte.
Oh,
que voilà.
Mon Dieu, deux banques sur le même canapé. Un spectacle agréable. Bonjour, Ziozioshka.
Bonjour.
Bonjour, Popenet.
Oh, que je suis heureuse. Vous venez si rarement, comte. Ah, Gavrila, vite du thé. Asseyez-vous,
merci.
Je vous prie.
Mais d'où viens-tu? Mais quel hasard t'amène? En voilà une surprise. Ah. Oh, comte, tu es un brigand. Les honnêtes gens n'agissent pas ainsi. Oh, tu ne peux t'imaginer comme je m'ennuie sans mes amis. D'ennui, je suis prêt à me pendre. Monsieur Ujushka, avec son établissement de prêt, a fait fuir d'ici tous les honnêtes gens.
Comment sers-tu, Gavrila? Tu devrais apporter quelques confitures. De la groseille à macro, voyons.
Ah, ah, ça y est. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai parié en venant que dès notre arrivée, Ziozioshka nous offrirait de la confiture de groseille à macro.
Vous êtes comte, toujours aussi taquin.
On en a fait 20 barils. Il faut bien les écouler.
Bah, voyons. Alors, vous amassez de l'argent, Ziozioshka? Ah, vous avez bien votre petit million maintenant, hein?
À en juger sur l'apparence, il n'est pas de gens plus riches que nous. Mais d'où nous viendrait l'argent? Ce sont des balivernes.
Ah, bah, bien sûr, bon, c'est bien. Et Pomponette, elle aura aussi bientôt son petit million. Regardez ça, elle s'épanouit, non pas de jour en jour, mais d'heure en heure. Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'argent?
Oh, vous êtes toujours le même, comte.
Heureusement.
Yegorouchka, éteins les bougies. Pourquoi les laisser brûler si on ne joue pas? Nikolaï Alexeïevitch, comment va votre femme?
Mal, aujourd'hui, le docteur a positivement déclaré qu'il est phtisique.
Est-ce possible? Quel malheur! Et tous, nous l'aimons tant.
Ah, bêtise, 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 elle n'est pas phtisique. Charlatanisme, truc de docteur.
Mikhail Mikhailovitch, on l'entend tout de suite.
Le bout en train.
Et me voilà, me voilà. Noble signorina, je prends la liberté de féliciter l'univers de la naissance d'une aussi merveilleuse fleur que vous. Comme tribut de mon admiration, permettez-moi de vous offrir des feux d'artifice et des feux de Bengale de ma composition. Puissent-ils illuminer la nuit comme vous éclairez les ténèbres de ce sombre royaume.
Je vous remercie.
Pourquoi ne chasses-tu pas ce Judas?
Pavel Kirillovitch, mes respects. Cher patron, le voilà, Nicolas. Salut, salut à la vénérée Zinaïda Savishna, à la divine Marfa Yegorovna, à la très antique Avdotia Nazarovna et à son excellence... Le con.
Ah, le bout en train. Il ne vient que d'entrer et déjà l'atmosphère est moins lourde. Vous remarquez?
Bon, eh ben, j'en suis fatigué. Alors, je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde.
Ah ouais, tout le monde.
Oui. Tout le monde?
Oui.
Bon, alors quoi de neuf, mesdames et messieurs?
Bon.
N'y a-t-il rien d'extraordinaire qui vous fasse tomber à la renverse?
Bon.
Ah, écoutez, chère dame, à l'instant, en venant chez vous, donne-moi du thé, Gavrioshka. Mais sans confiture de groseille. Alors, en venant chez vous à l'instant, j'ai vu près de la rivière les moujiques écorcer vos saules. Alors, pourquoi ne mettez-vous pas vos écorces en vente?
Pourquoi ne renvoies-tu pas ce Judas?
Mais c'est vrai, ça ne m'est pas venu à l'idée.
Je ne puis rester sans bouger. Chère dame, alors que pourrait-on faire d'extraordinaire?
Organiser quelque chose. Tout le monde s'ennuie.
Bon, alors, que désirez-vous? Les petits jeux?
Ah, oui, oui.
Non,
le furet? Le furet? La course?
Oh, non.
La danse?
Non.
Le feu d'artifice? Oui, le feu d'artifice! Oh, allez.
Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui?
J'ai mal à la tête, Chourochka, et puis je m'ennuie.
Venez au petit salon.
Oh, lui, je le comprends. Ça, c'est un jeune homme. En une minute, il a trouvé le moyen d'égayer tout le monde. Et tant qu'ils sont au jardin, il n'y a pas besoin de laisser brûler les bougies.
Oh, Zouzouchka, il faudrait donner à souper à nos hôtes.
Que de bougies! Que de bougies! C'est pas pour rien que tout le monde nous croit riches.
Yushka, tu devrais donner quelque chose à manger aux gens. Il y en a de jeunes, ils doivent avoir faim, les pauvres. Yushka.
Le comte n'a pas fini son verre. Le sucre a été perdu pour rien.
Oh, fille, oh.
Tout le monde est allé au jardin.
Voilà ce qui en est, ma petite Choura. Autrefois, je travaillais, je pensais beaucoup et je ne me fatiguais jamais. Et maintenant, je ne fais rien, je ne pense à rien. Et je suis là, là de corps et d'âme. La société même de ma femme qui m'aime est insupportable. Vous êtes ma vieille amie, Chourochka. Et vous ne m'en voudrez pas de ma sincérité. Mais je suis venu ici pour me distraire. Et je m'ennuie aussi chez vous. Et je me sens à nouveau attiré chez moi. Alors pardonnez-moi, mais je vais m'esquiver sans dire adieu.
Je vous comprends, Nikolai Alexeevitch. Votre malheur est d'être seul. Il faut auprès de vous une personne que vous aimiez qui vous comprenne. Seul l'amour peut vous renouveler.
Quelle idée, Jourochka. Mon malheur est vieux coq mouillé que je suis d'avoir entamé un nouveau roman. Dieu me préserve d'un pareil malheur. Non, vous qui comprenez tout, il ne s'agit pas de roman. Je vous le dis comme devant Dieu, je supporterai tout, l'ennui, la névrose, la ruine, la perte de ma femme, la vieillesse prématurée, la solitude, mais je ne supporterai pas, je n'endurerai pas de devenir ridicule à mes yeux.
Nikolai Alexeevitch, enfions-nous en Amérique.
J'ai la paresse d'aller jusqu'à cette porte et vous me parlez d'aller en Amérique. Non, vérité, Chouret. Il vous est difficile de vivre ici. Et quand je vois les gens qui vous entourent, j'ai peine à penser que vous vous marierez avec l'un d'eux. Je n'ai qu'un seul espoir. C'est qu'un lieutenant de passage ou un étudiant vous enlève, vous emmène. Pardon, Chourochka, mais je vous rejoins. Zinaïda Zavichny, j'ai une prière à vous faire.
Que voulez-vous, Nikolai Alexeyevitch?
Voilà, l'échéance de mes billets tombe après-demain. Vous m'obligeriez beaucoup si vous m'accordiez un délai ou me permettiez d'ajouter les intérêts au capital. Je n'ai pour l'instant aucun argent et...
Nikolai Alexeyevitch, est-ce possible? Quelle manière est-ce là? Non, au nom de Dieu, n'y songez pas. Oh, ne me tourmentez pas, malheureuse que je suis.
Pardon.
Oh, saint du paradis, comme il m'a bouleversée. Je tremble. Toutes. Oh, j'entends.
Ne craignez rien, docteur. On sera content de nous voir. Il n'y a personne. On doit être au jardin.
Pourquoi, je vous le demande, m'avez-vous amené chez ces oiseaux de proie? Ce n'est pas notre place. Les gens honnêtes ne doivent pas connaître un pareil milieu.
Écoutez, monsieur l'honnête homme, il n'est pas galant quand on accompagne une dame de ne lui parler toute la route que de son honnêteté. C'est peut-être honnête, mais c'est pour le moins ennuyeux. Ne parlez jamais aux femmes de vos qualités ou de vos vertus. Laissez-les les trouver elles-mêmes. Moi, Nikolai, quand il avait votre âge, ne faisait que chanter, plaisanter. Et toute femme savait à quel homme elle avait affaire.
Ah, ne me parlez pas de votre Nikolai, je le connais trop bien.
Vous êtes un brave homme, mais vous ne comprenez rien. Allons au jardin. Il ne disait jamais « Je suis honnête, j'étouffe dans ce milieu, ce sont des oiseaux de proie, c'est un nid de chouette, ce sont des crocodiles ». Il n'évoquait jamais de ménagerie. Mais lorsque parfois il se révoltait, il disait seulement « Ah, oh, comme j'étais injuste aujourd'hui !» Ou bien « Aniuta, je plains cet homme. » Voilà comment il était, tandis que vous.
Quel ennui! Oh, quel ennui! Tous vont et viennent, ou restent assis comme s'ils avaient avalé une aune. D'ennui, tous leurs os se sont glacés. Oui. Oh, il faut se défiger.
Ah, quel diable. On a
chanté. Ah, va les mains, va effronter. Le comte pourrait penser, Dieu sait quoi. Oh, lâchez-moi, lâchez-moi.
Bon, allez, assez, parlons affaires.
Ah, oui, oui.
Alors, calculons net commercialement. Hein.
Oui.
Répondez-moi franchement, sans subtilité ni facétie, oui ou non.
Bon.
Alors, écoutez. Voyez-vous, il a besoin d'argent.
Oui, c'est vrai.
Hein?
Oui.
Au minimum, 3000 roubles de revenus par an.
Oui, au moins, oui.
Vous avez besoin d'un mari. Hein? Bon, alors, voulez-vous devenir comtesse?
Quel étonnant cynique.
Non, voulez-vous être comtesse, oui ou non?
Quelle plaisanterie!
Micha, vraiment, mais ces affaires-là ne se concluent pas au pied levé. Si cela plaît au comte, il peut lui-même. Je ne sais pas comment, tout d'un coup, sans même me prévenir.
Non, assez compliqué les choses. Affaires commerciales, alors c'est oui ou non?
Mais fait, ne faut-il pas, diable, faire cette turpitude-là, hein? Mon petit poupon. Mes délices. Mon petit concombre.
Attendez. Mais vous m'avez absolument bouleversée. Partez.
Non, écoutez, vite, c'est vite, oui ou non?
Non,
nous n'avons pas le temps,
Savez-vous, comte?
Oui.
Eh bien, venez passer 2 ou 3 jours chez moi.
Mais
on y est gai. C'est pas comme ici.
Mais bien sûr.
Tenez, venez demain.
C'est entendu.
Non, vous plaisantez. Hein?
Non, mais qui plaisante dans les affaires sérieuses?
Attendez.
Ouais.
Je me trouve mal.
Oh, mon Dieu.
Oh, moi, comtesse.
Venez,
non, ça ne se peut pas, Il ne le faut pas, Chourotchka, il ne faut pas.
Je vous aime follement. Sans vous, ma vie n'a pas de sens. Il n'y a pas de bonheur et de joie, vous êtes tout pour moi.
Mais pourquoi ça, pourquoi? Mon Dieu, je ne comprends rien, Chourotchka, il ne le faut pas.
Dans mon enfance, vous étiez mon unique joie. Je vous aimais, vous et votre âme, comme moi-même. Et maintenant, je vous aime, Nikolai Alexeïevitch. Avec vous, ce n'est pas seulement au bout du monde que j'irai, mais où vous voudrez, même dans la tombe. Seulement, décidez vite où j'étouffe.
Chourotchka. Autrement dit, recommencer sa vie. Chourotchka, vous le voulez? Mon bonheur, ma jeunesse, ma fraîcheur. Alors, vivre? Chourotchka, vivre? Recommencer? Chourotchka. Anna.
Mon Dieu, Anna Petrovna.
Le cabinet de travail d'Ivanov. Le comte Chabelski, Borkin et Lebediev, en attendant Ivanov, mangent des harengs et boivent de la vodka.
C'est très
bon. À nos santé. Je ne vais pas avoir le temps d'attendre Nicolas Tchad. Il faut que je parte.
Ah bon?
Chez Madame Babakine, dis-tu, on a servi des champignons.
Ah oui, oui.
Et chez nous, il n'y en a pas encore paru.
Oh ben.
Dis-moi un peu pourquoi diable tu vas si souvent chez cette Marfoutka.
Ah ouais. Il veut me marier avec elle.
Te marier?
Ouais.
Mais quel âge as-tu?
62 ans.
Oh, ouais. C'est le vrai moment.
Ben oui, bien sûr.
Et Marfoutka est juste la femme qu'il te faut.
Non, mais il ne s'agit pas de Marfoutka, mais de ses livres sterling.
Il n'est pas difficile. Ouais, il en veut à ses livres sterling. Veut-il aussi du lait de poule?
Quand il sera marié et aura un pocher, vous le verrez, le lait de poule. Vous vous en pourlécherez. C'est qu'il parle sérieusement. Ce génie est persuadé que je vais l'écouter et épouser.
Je crois bien. Et vous? Vous n'en êtes pas persuadé.
Tu es fou. Est-ce que je l'ai jamais été?
Voilà une bonne, alors là. Merci bien. C'est donc que vous voulez me mettre dans une belle situation.
Mais non.
Tantôt vous voulez vous marier, tantôt pas. Mais le diable s'y perdrait. Mais j'ai déjà engagé ma parole. Alors, vous ne vous mariez pas?
Mais s'il parle sérieusement.
Oui.
Quel homme étonnant!
Alors pourquoi avoir troublé une honnête femme?
Quoi?
Elle est folle du titre de comtesse, elle n'en dort plus, elle ne mange plus. Alors, est-ce qu'on plaisante ainsi? Est-ce que c'est honnête?
Et si après tout, je faisais cette abomination? Pour faire enrager les gens. Allez, je vais le faire, ma parole. Allez, ça sera drôle.
Tous mes respects à Esculape.
Nikolai Alexeïevitch n'est pas encore arrivé?
Ah non, je l'attends moi aussi depuis plus d'une heure. Mon cher, comment va Anna Petrovna?
Mal.
Puis-je aller lui présenter mes hommages?
Non, s'il vous plaît, n'y allez pas, je crois qu'elle repose.
Oh, elle est sympathique, bonne. Le jour de l'anniversaire de Chourotchka, quand elle s'est évanouie chez nous, J'ai regardé sa figure et ai compris qu'elle ne vivrait pas longtemps. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est trouvée mal.
Dites-moi, vénéré grand prêtre de la science, quel savant a découvert que pour les dames poitrinaires, les visites réitérées des jeunes médecins sont favorables? C'est une grande, une très grande découverte. À quoi se rattache-t-elle? À l'allopathie? À l'homéopathie?
Au revoir, messieurs.
Quel regard exterminateur!
Oh, aussi, hein? Aussi, que diable as-tu besoin de lui parler? Pourquoi le piques-tu?
Et lui, pourquoi ment-il? Il dit qu'elle est phtisie, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'elle mourra. Il ment. Je ne peux pas tolérer ça.
Mais pourquoi crois-tu qu'il ment?
Je ne puis admettre l'idée qu'un être vivant meurt tout d'un coup, sans raison. Laissons là cette conversation.
Voilà où ils étaient. Moi qui le cherche dans toute la maison. Bonjour les beaux chevaliers.
Bonjour ma belle.
Bon appétit.
Qu'est-ce qui t'amène?
Je viens pour affaire, mon bon monsieur. Ah. C'est vous que ça regarde, Excellence.
Allons bon.
On m'a chargé de vous saluer et de savoir comment vous allez.
Monsieur.
Et elle m'a chargé, ma petite poupée, de vous dire que si vous ne venez pas ce soir, elle pleurera toutes les larmes de ses yeux. Elle m'a dit, ma chère, prends-le à part et glisse-lui ça dans l'oreille en secret.
Ah bon?
À quoi bon le secret? Nous sommes ici entre nous. Nous ne volons pas des poules. Et agissons légalement. Avec amour et consentement mutuel. Je ne bois jamais, pécheresse que je suis, mais pour la circonstance, je vais boire. Quel vodka raide.
Mais le plus curieux, c'est qu'il croit tout sérieusement que je vais. C'est étonnant. Et alors, en effet, Pacha, si je faisais cette abomination, hein? Pour enrager les gens, vieux chien, happe-moi ça, Pavel.
Tu dis des insanités, con. Nous n'avons plus qu'à songer à la crève. Et les Marfoutka et leur Sterling nous ont passé depuis longtemps devant le nez. Notre temps est fini.
Allez, non, je vais le faire, parole d'honneur, je vais le faire.
Voulez-vous m'accorder seulement 5 minutes?
Nicolas Tchard.
Bonjour.
Bonjour, mon grand ami.
Bonjour.
Je t'attends depuis plus d'une heure.
Bonjour, mon bon monsieur.
Messieurs, messieurs. Vous avez encore fait de mon cabinet un cabaret. Je vous ai 1000 fois demandé à tous de ne pas le faire. Tenez, on a renversé de la vodka sur mon papier. Voyez, des miettes, des concombres, enfin c'est dégoûtant.
Excuse-nous, Nicolas Tchard. J'ai à te parler, moi aussi, d'une chose très importante.
Moi aussi. Nikolaï Alexeyevitch, puis-je vous parler?
Lui aussi, vous le voyez, a besoin de moi. Attendez, je vous prendrai après.
Oui, allez.
Lebediev.
Oui.
Que me veux-tu?
Messieurs, excusez-moi, c'est secret. Je vous prie.
Viens voir, viens. On va aller laisser.
Pacha. Pacha, tu peux boire tant qu'il te plaira, ça te regarde. Mais je t'en prie, n'habitue pas mon oncle. Avant, il ne buvait jamais. Ça lui est très nuisible, tu entends, très nuisible.
Oh, mon cher, je ne savais pas, je n'y ai même pas fait attention.
Si ce vieil enfant allait mourir pour vous, ce ne serait rien, mais pour moi... Bon, alors que te faut-il?
Vois-tu, mon cher ami, je ne sais pas par où commencer pour que ce soit moins incongru, Nicolas Tchard. J'ai honte, j'en rougis, ma langue s'embarrasse. Mais mon cher, mets-toi à ma place. Comprends que je suis un homme asservi, un nègre, une chiffe. Pardonne-moi.
Qu'y a-t-il?
C'est ma femme qui m'envoie. Fais-moi ce plaisir, sois un ami, paie-lui ses intérêts. Crois-moi, elle me ronge, m'accable, me supplicie. Dépêtre-toi d'elle au nom du Créateur.
Pacha, tu sais bien que je n'ai pas d'argent en ce moment.
Je le sais, mais que puis-je faire? Elle ne veut pas attendre. Si elle t'envoie l'huissier, dans quelle situation serons-nous vis-à-vis de toi, Chourotka et moi?
J'en ai honte moi-même, Pacha, mais je suis prêt à rentrer sous terre, mais où prendre de l'argent? Dis-le-moi.
Il n'y a qu'à attendre l'automne quand mon blé sera vendu.
Elle ne veut pas attendre.
Pacha, ta situation est désagréable, délicate, mais la mienne est pire. Non, positivement, je ne trouve rien, rien à vendre, rien.
Écoute, si tu allais trouver 1000 bacs, il te doit 16 000 roubles. Écoute, Nikolatcha, je sais que tu vas te fâcher, mais fais plaisir à un vieil ivrogne. Laisse-moi te parler en amir. Tiens, j'ai là de l'argent sacré. Nul ne le sait à la maison. Je te le prête. Mets ton amour propre de côté et prends-le en ami. Moi, ma parole, je le prendrai de toi. Tiens, voici sur la table 1100 roubles. Alors fais-toi conduire chez elle et remets-les-lui en personne. Tenez, Zinaïda Savitchna, avalez-moi ça. Seulement, ne laisse pas savoir, Dieu t'en garde, que tu me les as empruntés, hein. Ce que j'en recevrai alors de sa confiture de groseille. Oh, oh, ça ne te va pas, hein. Eh ben alors, n'en parlons plus. Oh, n'en parlons plus, je plaisantais. Pardonne-moi, hein, au nom du Christ. Ça te trouble? Oui, ah, oh, quelles histoires! Nikolatcha, moque-toi de tout et viens chez nous. Chourotchka t'aime, tu comprends, et t'estime. Elle est bonne, elle est honnête, Nikolatcha. Elle ne ressemble ni à sa mère ni à son père, mais sans doute à quelques gaillards de passage. Je la regarde et parfois je ne puis croire que moi, vieil ivrogne à gros nez, j'ai un pareil trésor. Viens parler avec elle de choses sérieuses. Tu la distrairas. C'est un être sûr, sincère.
Pacha, mon ami, laisse-moi seul.
Oui, oh, je comprends. Je comprends. Adieu.
Pacha, que se passe-t-il en moi?
C'est justement ce que je voulais te demander.
Je ne le comprends pas, moi non plus. Il me semble... Non, du reste, non. Voici ce que je voulais dire. Tu te rappelles, j'avais un ouvrier, un nommé Sémion. Une fois pendant le battage, il voulut se vanter de sa force devant les filles. Et il se fit mettre 2 sacs de blé sur le dos et s'éreinta. Il mourut très bientôt. Eh bien, il me semble que moi aussi, je me suis brisé les reins. Le gymnase, l'université, puis la vie agricole, les écoles primaires, les beaux projets. Je ne croyais pas à la façon des autres. Je me suis marié différemment. Je m'emballais. Je risquais mon argent. Je jetais, tu le sais bien, à droite et à gauche. Je fus heureux et j'ai souffert, comme personne dans le district. Eh bien, tout ça, Pacha, ce fut mes sacs à moi. Je me suis mis un fait sur le dos et mon dos a plié aussi. À 20 ans, nous sommes tous des héros. Nous entreprenons tout. Nous pouvons tout. Mais à 30, nous sommes fourbus et nous ne valons plus rien. Par quoi expliquer cette fatigue? Je ne sais pas. Peut-être est-ce autre chose? Mais oui, c'est autre chose. Autre chose, autre chose, autre chose, autre chose. Va en paix, Pacha, je t'ennuie.
Sais-tu, frère, c'est le milieu qui t'a englué.
Ce que tu dis, Pacha, est bête et vieux. Mais va-t'en.
Oui, en effet, c'est bête. Je le vois maintenant, moi aussi, que c'est bête. Je pars. Je pars.
Je suis mauvais, pitoyable et nul. Il faut être aussi pitoyable que Pacha, un vachier perdu de boisson comme lui, pour m'aimer et m'estimer encore. Comme je méprise, mon Dieu! Comme je déteste profondément ma voix, mes pas, mes mains, mes habits, mes pensées. Que sont devenus mes nerfs? Il suffit que ma femme malade pique mon amour propre, que mes domestiques me mécontentent ou que mon fusil rate, pour que je devienne grossier, furieux, différent de moi-même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pas. C'est à se loger une balle dans la tête.
Je vais vous demander une explication, Nikolaï Alexeyevitch.
Docteur, si nous nous expliquons tous les jours, nos forces n'y suffiront pas.
Vous plaît-il de m'écouter ?
Je vous écoute chaque jour et je ne peux nullement, sans me comprendre jusqu'à présent, ce que vous voulez de moi.
Je vous parle d'une façon précise et nette. Et celui-là seul ne peut pas me comprendre qui n'a pas de cœur.
Que ma femme soit à la mort, je le sais. Que je sois irrémédiablement coupable envers elle, je le sais aussi. Que vous êtes un honnête homme et droit, je le sais encore. Alors, que vous faut-il de plus ?
Cette mort vous est nécessaire pour de nouveaux exploits, soit. Mais ne pourriez-vous pas patienter ? Si même vous la laissiez mourir de sa belle mort, sans l'accabler de votre froid cynisme, Lebedev et sa dot vous échapperaient-elles ? Dans un ou deux ans, admirable Tartuffe, vous tourneriez la tête à cette jeune fille, vous vous rendriez maître de sa dot aussi bien que maintenant. Pourquoi vous pressez-vous ? Pourquoi voulez-vous que votre femme meure à présent et pas dans un mois, dans un an ?
Oh, quel supplice ! Quel supplice ! Docteur, docteur, vous êtes un bien mauvais médecin si vous croyez que l'homme peut se contenir indéfiniment. Il m'en coûte de grands efforts pour ne pas répondre à vos insultes. Laissez-moi, je suis mille fois coupable, j'en répondrai devant Dieu, mais personne ne vous a donné le droit de me torturer chaque jour.
Et qui vous a donné celui d'offenser ce qui est, selon moi, la vérité ? Vous martyrisez et empoisonnez mon âme ? Avant de venir dans ce district, j'admettais qu'il existe des gens bêtes, fous, emballés. Je ne croyais pas qu'il y eût des criminels tendant consciemment et sciemment leur volonté vers le mal. J'estimais, j'aimais les hommes. Mais après vous avoir vu...
Je connais déjà ça.
Vous le connaissez. Ah, voici Sacha. Maintenant, j'espère que nous nous comprenons parfaitement l'un et l'autre.
Choura, c'est toi ?
Oui, bonjour. Tu ne m'attendais pas ? Pourquoi tu étais si longtemps sans venir chez nous ?
Choura, au nom du ciel, c'est imprudent. Ton arrivée peut avoir sur ma femme un effet effroyable.
Elle ne me verra pas. J'arrive par l'entrée de service et je repars tout de suite. J'étais inquiète de ta santé. Pourquoi, depuis si longtemps, n'es-tu pas venue ?
Ma femme, sans cela, est déjà ulcérée. Elle est presque mourante. Et tu viens ici, Choura, Choura. Mais Choura, c'est de la légèreté. C'est, je ne sais pas, moi, c'est inhumain.
Mais que pouvais-je faire ? Depuis 2 semaines, tu ne venais pas. Tu ne réponds pas à mes lettres. Je souffrais. Il me semblait que toi aussi, tu souffrais insupportablement ici. Que tu étais malade, mort. Je n'ai pas dormi tranquille une seule nuit. Je repars un instant. Mais au moins, dis-le-moi. Tu vas bien ?
Non. Je me tourmente et les gens me torturent sans cesse. Je n'ai littéralement plus de force. Et encore te voilà. Mon Dieu, que tout cela est malfaisant, que c'est anormal. Choura, comme je suis coupable. Coupable.
Que tu aimes à dire des mots apitoyants, effrayants. Coupable, toi. Vraiment, quoi, dis-le-moi.
Oh, je ne le sais pas, je ne sais pas.
Ce n'est pas une réponse. Tout pécheur doit connaître ses péchés.
Oui, j'ai remarqué que quand tu commences à me sauver, à me parler raison, ta figure devient naïve, naïve. Et tes prunelles s'agrandissent, comme si tu regardais une comète. Attends, tu as de la poussière à l'épaule. Oh, un homme naïf est un imbécile. Tandis que vous, les femmes, vous arrivez à faire les naïves si bien que c'en est gentil, réconfortant, tiède et... pas si bête que ça. Mais quelle manière avez-vous toutes ? Tant qu'un homme est bien portant, fort et gai, vous ne lui accordez aucune attention. Mais dès qu'il commence à rouler la pente et à geindre, vous vous suspendez à son cou. Enfin, est-ce donc pire d'être la femme d'un homme robuste et vaillant que d'être la garde malade d'un malchanceux, d'un pleurnicheur comme moi, non ?
C'est pire.
Et pourquoi ça ?
Parce que toute jeune fille préfère à un heureux un malchanceux. Parce qu'un amour actif les séduit toutes. Comprends-tu ? Un amour actif.
L'amour actif. Oh, c'est de la perversion, ou de la philosophie de jeune fille. Ou peut-être, après tout, doit-il en être ainsi. Dieu seul le sait. Choura, ma parole d'honneur, je suis un homme honnête. Tiens, juge-en. J'ai toujours aimé à philosopher, mais jamais de la vie je n'ai dit Nos femmes sont perverties, ou bien la femme est dans la mauvaise voie. Je n'aurais jamais été que reconnaissant, voilà tout. Ma chère petite, que tu es amusante. Et moi, quel drôle d'imbécile je fais. Je déconcerte les gens, posés, je gémis des jours entiers. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais pars, Sacha, pars. Pars, nous nous oublions en ce moment.
Oui, il est temps de partir. Adieu. J'ai peur que ton honnête docteur, par sentiment du devoir, me rapporte à Anna Petrovna que je suis ici. Écoute-moi. Va tout de suite chez ta femme. Et reste-y. Tu peux ne pas du tout songer à moi. Si dans 2 semaines tu m'écris une ligne, je t'en saurai gré. Moi, je t'écrirai.
Ah, on peut entrer, Nikolaï Alexeïevitch ? Ah, pardon, je n'avais pas vu. Ah, bonjour.
Bonjour.
J'ai pris de l'embonpoint. Vous avez embelli.
Alors, je pars, Nikolaï Alexeïevitch. Je m'en vais.
Oh, là, charmante vision, hein. Je venais pour de la prose et je tombe dans la poésie. Et tu m'es apparu comme un oiseau à l'aube. Bon. Ah. Il y a en elle, Nicolas, quelque chose qui manque aux autres, est-ce vrai? Hein? Quelque chose de personnel, de fantasmagorique. Eh oui. En somme, c'est le plus riche parti de tout le district, mais la maman est un réfort si violent que personne ne veut s'en approcher. Après elle, tout sera à Chouroutchka, mais jusqu'à sa mort, elle ne donnera qu'une 10 000 roubles de fanfreluche. Et puis, il y a aussi un fer à repasser. Et encore, faudra-t-il la saluer jusqu'à terre. Bon. Ah, où est-ce que j'ai mis les crapulos, là? Vous fumez pas, ou des capulos, hein? Vous en voulez pas? Il veut pas des capulos. Ben, ils sont pas mauvais, on peut les fumer.
Que dans 1 minute, votre pied ne soit plus dans ma demeure. Dans 1 minute. Dehors, immédiatement!
Mais Nicolas, qu'y a-t-il? Enfin, pourquoi vous fâchez-vous?
Pourquoi? Mais d'où tenez-vous ces cigares? Croyez-vous que je ne sache pas où et dans quel but vous emmenez mon oncle chaque jour?
Mais qu'est-ce que ça peut vous faire?
Misérable que vous êtes, vos abjects projets dont vous abasourdissez tout le district ont fait de moi aux yeux de tous un malhonnête homme. Nous n'avons rien de commun. Et je vous prie de quitter immédiatement ma maison.
Je sais que vous dites tout cela par énervement aussi. Je me fâche pas. Allez, insultez-moi tant que vous voudrez. Bon, allez, où est mon cigare? Il est là, tiens. Mais il est temps, vous savez, de remiser votre mélancolie, hein? Vous n'êtes plus un lycéen?
Que vous ai-je dit? Vous vous jouez de moi?
Voici Anna Petrovna. Ah bon, bon, bon.
Pourquoi à l'instant était-elle ici? Je te demande pourquoi elle est venue ici.
Non, ne le demande pas, Agnuta. Je suis profondément coupable. Alors imagine n'importe quel châtiment, je m'y soumettrai, mais ne m'interroge pas. Je n'ai pas la force de parler.
Pourquoi est-elle venue ici? Voilà donc qui tu es. Maintenant, je te comprends. Je vois enfin quel homme tu es, malhonnête. Bah! Tu te rappelles? Tu es venue et m'as dit en mentant que tu m'aimais. Je t'ai cru. J'ai quitté mon père, ma mère, ma religion et je t'ai suivi. Tu mentais en me parlant de bonté, de vérité et de tes plans magnifiques. Je croyais chacune de tes paroles.
Agnuta, je ne t'ai jamais menti.
J'ai vécu 5 ans avec toi. J'ai souffert, j'étais malade. Mais je t'aimais, je ne t'ai pas quitté 1 minute. Tu étais mon idole. Et toi? Toi, tout le temps, tu m'as trompée de la façon la plus impudente.
Agnuta, ne dis pas ce qui n'est pas. Je me trompais, oui, mais de ma vie, je n'ai pas menti une seule fois. Ça, tu n'as pas le droit de me le reprocher.
Maintenant, tout est compréhensible. Tu m'as épousée en pensant que mon père et ma mère me pardonneraient, qu'ils me donneraient de l'argent. Tu le pensais.
Mon Dieu, Agnuta, éprouvé ainsi ma patience.
Et toi, quand tu vis que je n'avais pas d'argent, commence un nouveau jeu. Maintenant, je me rappelle tout et je comprends. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne m'as pas été fidèle, jamais.
Sarah, c'est un mensonge. Dis tout ce que tu voudras, mais ne m'insulte pas par ce mensonge.
Oh, malhonnête et vil. Tu dois de l'argent à l'EBDF, et pour te libérer de ta dette, tu veux tourner la tête de sa fille, la tromper comme moi, n'est-ce pas vrai?
Tais-toi, Sarah, tais-toi, au nom de Dieu! Je ne réponds pas de moi.
La colère m'étouffe et je pourrais t'insulter.
Tu as toujours impudemment trompé les gens et pas moi seule. Toutes les mauvaises actions, tu les mettais sur le compte de Borkin. Mais à présent, je sais qui en est l'auteur.
Sarah ! Sarah ! Tais-toi ! Tais-toi ou bien je suis tentée de dire quelque chose d'affreux, d'outrageant. Tais-toi, juive !
Non, je ne me tairai pas. Tu m'as trop longtemps trompée pour que je puisse me taire.
Tu ne te tairas pas. Au nom du ciel !
Maintenant, va tromper la Lebedieff.
Alors sache que tu vas mourir bientôt. Oui, le docteur m'a dit que tu mourrais bientôt.
Comment t'a-t-il dit?
Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait là?
Un an après, chez les Lebedieff.
Près de 5 heures. On va probablement leur donner bientôt la bénédiction. Ensuite, départ pour le mariage. Et voilà le triomphe de la vertu et de la vérité. Il n'a pas réussi à dépouiller Sarah, il l'a torturée, mise au tombeau et... maintenant, il en trouve une autre. Et tant qu'il ne l'aura pas ruiné, il fera aussi l'hypocrite devant celle-là. Et quand ce sera fait, il la mettra où est la pauvre Sarah. Vieille histoire d'accapareur. Je suis un honnête homme et je dois ouvrir les yeux des aveugles. Je ferai mon devoir et demain je quitterai ce district maudit.
Ah, bonjour, docteur. Hier, on faisait une partie. J'annonce un petit chelem de trèfle et j'en fais un grand. Mais Barabanov m'a tout gâté. Nous jouons. Je dis sans atout. Il dit je passe. Je dis deux carreaux.
Excusez-moi, je ne joue pas aux cartes et je ne peux pas partager vos transports. C'est bientôt la bénédiction.
Mais sans doute, on fait revenir à elle Zuzuska. Elle braille comme un esturgeon. Elle regrette la dot.
Pas sa fille.
Ah, la dot, c'est vexant. Ivanov se marie. Donc il ne paiera pas sa dette. On ne proteste pas les billets de son gendre.
Écoutez, dites-moi sincèrement votre avis sur Ivanov.
Oh, il ne voit absolument rien. Il joue aux cartes comme un savetier. Tenez, l'année dernière, pendant le carême, voilà ce qui est arrivé. Nous nous mettons à jouer. Moi, le comte, Borkin et lui. Je donne les cartes.
Non, je vous demande, est-ce un brave homme?
Lui? Oh, un rude malin. Il a passé par le feu et par l'eau. Oh, le comte et lui font la paire. Il flaire ce qu'il y a à tondre. Il a fait fiasco avec la juive. Il a avalé un mauvais morceau. Et maintenant, il se défile sur le coffre-fort de Zuzuska. Ah,
viens par ici. Viens par ici, nous serons mieux pour bavarder.
Allez, Zoulou, dans la salle avec les demoiselles. Nous avons à causer confidentiellement.
Ah, cette petite Sacha! Un vrai portrait de maître, une dame d'atout.
Allons, troglodyte, passe.
C'est ça.
Là, assieds-toi, Shurochka. Là, comme ça. Et écoute-moi avec attention et avec le respect convenable. Voilà, ta mère m'a ordonné de te dire ce qui suit. Tu entends, je ne te dis pas cela de mot cru, mais sur l'ordre de ta mère.
Papa, abrège.
Ah ben voilà, on t'a constitué en dot 15 000 roubles argent. Voilà, alors fais en sorte de ne rien réclamer dans la suite. Non, attends, tais-toi, je n'en suis qu'aux fleurs. Il va y avoir des fruits. On te constitue 15 000 roubles de dot, mais comme Nikolaï doit à ta mère 9 000 roubles, on les déduit de ta dot. Et ensuite, ma petite... En dehors de cela...
Pourquoi me dis-tu cela?
Et ta mère me l'a ordonné.
Laissez-moi tranquille. Si tu avais un peu d'estime pour toi et pour moi, tu ne te serais pas permis de me parler de cette façon-là. Je n'ai pas besoin de votre dot. Je n'en ai pas demandé et n'en demande pas. N'offusquez pas mes oreilles avec vos calculs de liard.
Vous ferez tant tous que je me flanquerai un coup de couteau ou que j'égorgerai quelqu'un. L'une sanglote, hurle toute la journée, me harcèle, compte les copecs... Et celle-ci, l'intelligente, l'humanitaire, l'émancipée, que le diable emporte, ne peut comprendre son propre papa. Ça ne me plaît pas.
Rien en vous ne me plaît.
Qu'est-ce qui ne te plaît pas?
Tout me déplaît, tout.
Quoi, tout?
Eh ben, laisse-moi m'asseoir en face de toi et je vais te raconter. Rien ne me plaît. Et je ne veux pas voir ton mariage. Non, excuse-moi, Shurochka. Ton mariage est peut-être intelligent, honnête, élevé et dans les principes. Mais il y a en lui quelque chose qui cloche, qui n'est pas ça. Ce mariage ne ressemble pas aux autres. Toi, tu es jeune, belle, fraîche, pure comme le cristal. Et lui, il est veuf, flappy, usé. Et Dieu me pardonne, je ne comprends pas ce mariage.
Moi aussi, papa. Je sens que ce n'est pas ça. Oui, j'ai peur, comme jamais je n'ai eu. Il me semble que je ne comprends pas et ne comprendrai jamais. Depuis que je suis sa fiancée, il n'a jamais souri. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Continuellement des plaintes, un remords de quelque chose, des allusions à une faute, des transes. Je suis lasse. Il y a des minutes même où il me semble que je ne l'aime pas aussi fort qu'il le faudrait. Et quand il vient ici, qu'il cause avec moi, je m'ennuie. Mais qu'est-ce que cela signifie, mon petit papa? J'ai peur.
Ma chérie, mon unique enfant, écoute ton vieux père. Refuse-le.
Non, ne dis pas cela, papa. Je ne veux pas t'entendre. Il faut réagir contre les idées sombres. C'est un homme bon, malheureux, incompris. Non, je l'aimerai. Je le comprendrai. Je le remettrai sur pied. J'accomplirai ma tâche. C'est résolu.
Ah, que le diable les emporte tous et moi avec, c'est révoltant.
Qu'est-ce que tu as?
Non, sérieusement, il faut coûte que coûte que je fasse quelque abomination, quelque saleté, qui dégoûte non pas seulement moi, mais tout le monde. Et je le ferai, parole d'honneur. Tiens, j'ai déjà dit à Borkine d'annoncer aujourd'hui que je suis fiancé. Ah, si tout le monde est abject, je le serai aussi.
Enfin, il y a un mariage ici, tout le monde est gai, et tu croises comme un corbeau. Non, vraiment. Saint du paradis, Matvei. Non, qu'as-tu, mon petit Matvei? Qu'as-tu, mon ange? T'ai-je fait de la peine? Allons, pardonne-moi, vieux chien que je suis. Pardonne à un vieil ivrogne. Allez, bois un verre d'eau.
Non, pas besoin.
Enfin, pourquoi pleures-tu?
Pour rien.
Non, mon petit Matvei, ne mens pas. Pourquoi pleures-tu? À quel sujet?
Je viens de voir ce violoncelle. Je me suis souvenu de la petite juive.
Ah, tu choisis bien ton moment pour t'en souvenir. Que Dieu ait son âme et qu'elle jouisse du repos éternel. Mais ce n'est pas le temps de s'en souvenir.
Nous jouions des duos ensemble. C'était une femme merveilleuse. Une excellente femme.
Et toi, qu'est-ce qui te prend? Mon Dieu, mais ils braquent tous les deux et moi je... Mais au moins partez d'ici, les invités vont vous voir.
Écoute, Pavel, donne-moi de l'argent. Oui, nous ferons nos comptes dans l'autre monde. J'irai à Paris voir la tombe de ma femme. Tu sais, j'ai beaucoup donné dans ma vie, la moitié de ma fortune. J'ai le droit de demander. Et puis c'est à un ami que je demande, Pavel.
Mon cher, je n'ai pas un copec.
Oh, Pavel.
Du reste, je tâcherai, c'est-à-dire, je ne te promets pas, mais tu comprends.
Parfait.
Oh, il m'exténue.
Où est mon chevalier servant? Comte, comment osez-vous me laisser seul?
Non, laissez-moi en paix, je vous hais.
Quoi? Que dites-vous?
Éloignez-vous! Laissez-moi!
Il vient d'arriver quelqu'un. Je crois que c'est le garçon d'honneur du fiancé. Il est temps de faire donner la bénédiction. Maman!
Les voilà tous à hurler. Mais cessez de répandre de l'humidité. Matvei, Marfa, si c'est comme ça, moi, je me mets aussi à pleurer. Mon Dieu!
Tu te passes de ta mère, bien que tu lui désobéisses. Je te fais tout de même le plaisir de te donner ma bénédiction.
Il ne manquait que ça. Qu'y a-t-il?
Que viens-tu faire?
Pardon, permettez-moi de parler à Sacha en tête à tête.
Il n'est pas d'usage de venir chez sa fiancée avant le mariage. Il est temps que tu ailles à l'église.
Sacha, je t'en prie.
Venez.
Que veux-tu?
Chora, le dépit m'étouffe, mais je parlerai avec calme. Écoute. En m'habillant, je viens de me regarder dans la glace et je me suis vu aux tempes. Des cheveux gris. Chora, il ne faut pas de ce mariage. Tant qu'il n'est pas trop tard, il faut mettre fin à cette comédie absurde. Tu es jeune, pure. Tu as toute la vie devant toi et moi...
Tout cela n'est pas neuf. Je l'ai entendu mille fois et ça m'ennuie. Va à l'église. Ne retarde pas nos invités.
Je vais rentrer à l'instant chez moi et tu annonceras au tien que le mariage ne se fait pas. Explique-leur ça comme tu voudras. Il est temps de revenir à la raison. Nous nous aimons, mais notre mariage n'aura pas lieu. Je peux me donner au diable, ça me regarde, mais je n'ai pas le droit de perdre les autres. Oui, je passe mon temps à me plaindre et chacun en m'écoutant contracte le dégoût de la vie et commence aussi à dénigrer tout. Et quel ton est le mien? Comme si je faisais à la nature en vivant beaucoup d'honneur. Oh, le diable m'emporte.
Minute, de ce que tu viens de dire, il suit que tu t'ennuies de geindre et qu'il est temps de commencer une vie nouvelle. Et c'est parfait.
Mais je ne vois là rien de parfait. Qu'est-ce que tu racontes? Et de quelle vie nouvelle parles-tu? Je suis perdu sans retour. Il est temps pour nous deux de le comprendre. Quelle vie nouvelle peut-il y avoir?
Non, je ne veux ni te parler ni t'écouter. Va à l'église.
Je suis perdu! Je suis perdu!
Ne crie pas ainsi! Les invités vont t'entendre.
Oh, on peut nous déranger, ça m'est égal. Écoute, 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 Choura. Si tu m'aimes, aide-moi. Et à l'instant même, repousse-moi. Vite!
Nicolas, si tu savais comme tu m'accables, comme tu supplicies mon âme, bon intelligent que tu es, juge si l'on peut poser de pareils problèmes. Chaque jour, un problème plus difficile que l'autre. Je voulais un amour actif, et c'est là un amour de martyr.
Mais si tu devenais ma femme, ces problèmes seraient encore plus difficiles. Comprends que ce n'est pas l'amour qui parle en toi, mais l'obstination d'une nature honnête. Tu t'es donné pour but de faire revivre coûte que coûte l'homme en moi, de me sauver. Tu étais fier d'accomplir une pareille prouesse. Tu es prête maintenant à y renoncer, mais un faux sentiment t'en empêche. Voilà, c'est tout. Comprends-le.
Papa, au nom du ciel, il est accouru ici comme un fou et me torture. Il exige que je le refuse et dit qu'il ne veut pas me perdre. Mais dis-lui que je n'accepte pas sa générosité. Je sais ce que je fais.
Mais je n'y comprends rien, mais quelle générosité?
Le mariage n'aura pas lieu.
Il se fera. Papa, dis-lui que le mariage se fera.
Non, attends. Pourquoi ne veux-tu donc pas que le mariage se fasse?
Je lui ai tout expliqué, mais il ne veut rien entendre.
Ne lui explique pas à elle, mais à moi. Et explique-toi de façon à ce que je comprenne. Ah, oh, Nicolas, que Dieu te juge. Quelle brume as-tu introduite dans notre vie? Je crois être dans un cabinet de curiosité. Je regarde et ne comprends rien. C'est un vrai châtiment. Enfin, que veux-tu que je fasse avec toi, vieillard que je suis? Dois-je te provoquer en duel?
Non, pas besoin. Il ne faut qu'une tête sur des épaules et comprendre ce qu'on dit. Voilà, c'est tout.
Oh, c'est atroce. Il est comme un enfant.
Mais on visage les choses simplement, comme tous les regardent. Tout est simple en ce monde. Ce plafond est blanc, ces bottes sont noires, ce sucre est doux. Tu aimes Sacha, elle t'aime. Si tu l'aimes, reste. Si tu ne l'aimes pas, pars. Nous ne t'en voudrons pas, c'est si simple. Vous êtes tous les deux bien portants, intelligents, vous avez de la moralité, vous ne mourrez pas de faim et grâce à Dieu vous avez un gîte. Que te faut-il de plus? Tu n'as pas d'argent, la belle affaire. J'ai à la banque 10 000 roubles que je garde à tout besoin. Aucun chien à la maison n'en sait rien. Ils viennent de ma grand-mère. Je vous les donne à tous les deux, prenez-les. Seulement, un bon accord vaut mieux que l'argent. Donnez-en 2 000 au compte.
Pacha, tes paroles sont inutiles, je fais ce que m'ordonne ma conscience.
Moi aussi, je fais ce que me commande la mienne. Dis tout ce qui te plaira. Je ne te laisserai pas partir. Je vais appeler maman.
Je n'y comprends rien. Écoute, Pacha, écoute-moi bien. Je ne vais pas t'expliquer ce que je suis, honnête ou lâche, bien portant ou névropathe. Je ne te ferai pas entrer dans la tête. J'étais jeune, emporté, sincère, pas plus bête qu'un autre. Mon amour, ma haine, ma foi n'étaient pas ceux de tout le monde. Je travaillais et j'avais de l'espoir comme 10. J'avais hâte de dépenser ma jeunesse. Je m'enivrais, je m'exaltais. Et dis-moi, en pouvait-il être autrement? Nous sommes si peu nombreux, il y a tant de travail. Mon Dieu, comme il y en a. Et voilà combien cruellement la vie avec laquelle je luttais se venge de moi. Je me suis crevé. À 30 ans, je suis déjà écœuré, je suis vieux. Je me suis mis en robe de chambre. Tu as devant toi un homme de 35 ans déjà rendu, désillusionné. Il brûle de honte et se moque de sa faiblesse. Oh, comme ma fierté se révolte, comme la rage m'étouffe. Oh, comme je me suis tué. Je chancelle, je suis affaibli. Où est ma tuée? Oui, Mathieu, qui me ramène chez moi?
Le garçon d'honneur du fiancé est arrivé.
Un habit emprunté, fripé, pas de gants et combien de regards moqueurs pour cela? Des plaisanteries bêtes, des sourires pleins,
Exécrables petites gens.
Ah, où est-il donc? Ben, on vous attend depuis longtemps à l'église et vous faites ici de la philosophie. Ah, en voilà un plaisant. Faut pas arriver avec votre fiancée, mais séparément avec moi. Je viendrai de l'église prendre la fiancée. C'est même pas ça. Ah, non, positivement, alors, il est plaisant.
Ah, vous voilà. Nikolaï Alexeyevitch Ivanov, je vous le déclare en face de tous, vous êtes un lâche.
Grand merci.
Monsieur, c'est vil. C'est très vil. Je vous appelle en duel.
Monsieur Barkin, je considère comme dégradant non seulement de me battre avec vous, mais même de vous parler. Quant à monsieur Ivanov, je lui ferai satisfaction quand il voudra.
Monsieur, je veux me battre avec vous.
Que faites-vous? Pourquoi l'avez-vous insulté? Messieurs, laissez-le me dire pourquoi.
Alexandra Pavlovna, ce n'est pas à la légère que je l'ai insulté. Je suis venu ici en honnête homme pour vous ouvrir les yeux et je vous prie de m'entendre.
Que pouvez-vous me dire? Que vous êtes un honnête homme? Tout l'univers le sait. Dites-moi plutôt en bonne conscience si vous vous comprenez vous-même. Vous venez d'entrer ici en honnête homme et vous avez infligé à mon fiancé une insulte qui m'a presque tué moi-même. Avant, quand vous le poursuiviez comme son ombre et l'empêchiez de vivre, vous étiez certain de faire votre devoir, d'être un honnête homme. Partout où c'était possible, vous m'accabliez, moi et mes connaissances, de lettres anonymes. Vous n'épargniez même pas sa femme malade et ne lui laissiez pas de cesse avec vos soupçons. Et quelque violence, quelque lâcheté cruelle que vous fissiez, vous pensiez toujours être un honnête homme, extraordinairement honnête et avancé.
Ce n'est pas un mariage, mais un parlement. Bravo, bravo.
Et maintenant, songez-y. Vous comprenez-vous vous-même, oui ou non? Quels gens bornés, sans cœur. Partons d'ici, Nikolaï. Viens, père.
Mais où aller? Mais non, non, attends, je vais terminer. À l'instant, tout ça. La jeunesse se réveille en moi. L'Ivanov d'autrefois reparaît.
Non, je sais ce qu'il veut faire. Nikolaï, au nom de Dieu.
J'ai longtemps roulé sur la pente. Maintenant, halte! Et il ne faut pas dépasser la mesure. Non, éloignez-vous!
Non!
Merci, Sacha, quand même.
Nikolaï, au nom de Dieu, retenez-le!
Non, laissez-moi!
Le Théâtre populaire de juin 44 vous a présenté, dans une production de Maurice Bertrand, Ivanov d'Anton Tchekhov, avec Michel Vitold dans le rôle d'Ivanov, Michel Galabru Borkin, Harry Max le comte Chabelski, Jean Negroni le docteur Lvov, Marcel Alba Lebedev, Valévaldi Kosik, et Fanny Robian dans le rôle de Zinaïda, Catherine de Seine Anna, Fanny Maret Madame Babakin, Olga Nilza Avdotia, Katia Vaninka, Sacha, et Pierre Ferval, Jean Daguerre, Raymond Jourdan, Robert Verani, Jeanne Val, André Gire, Ginette Barbier, Annick Bidot. Prise de son Robert Lavoignat, collaboration technique Pierre Brault, assistante Claude Nattier. Réalisation Arlette Dave.
Cette pièce a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 juin 1966. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.